un samedi, en soirée, bondé. Sur la tour de l'observatoire, des rambardes de grillagés. La douceur du silence.
Je monte, je prends l'escalier qui mène à l'extérieur et me penche contre la rambarde grillagée.
Samedi, en soirée.
J'enjambe la rambarde grillagée, me mets debout sur le rebord.
Une alarme.
Tout le monde se précipite dehors et il n'y a plus qu'un bout de moi qui reste là.
Samedi,
je vous salue. Je me demande combien pèse la liberté. Chaque jour est plus clair que le précédent. Dans l'air, dans le vent, je trace mon nom.
Combien pesons-nous tous ensemble?
Absolument 3 jambes.
Le cabinet de radiologie,
est de retour pour sa deuxième consultation.
En présence du professeur
Paul Arthur.
Pensez commettre l'irréparable.
À mesure que s'ébroule l'indicible.
Dans un dernier souffle.
Un soupir amer.
Du rapport à la mer.
Du départ de l'enfance.
Comme une évidence.
Danse.
Danse. Danse.
Les plus redoutables ennemis des Finlandais sont la mélancolie, la tristesse, l'apathie. Une insondable lassitude plane sur ce malheureux peuple et le courbe depuis des milliers d'années sous son joug, forçant son âme à la noirceur et à la gravité. Le poids du pessimisme est tel que beaucoup voient dans la mort le seul remède à leur angoisse. Le spleen est un adversaire plus impitoyable que l'Union soviétique. Mais les Finlandais sont une nation de guerriers. Ils ne capitulent pas. Ils se rebellent encore et toujours contre la tyrannie. À la Saint-Jean d'été, dans l'allégresse de la fête du solstice, le pays, unissant ses forces, livre une gigantesque lutte contre la morosité qui le ronge. Dès la veille, le peuple entier se range en ordre de bataille. Non seulement les hommes en âge de prendre les armes, mais aussi les femmes, les enfants, les vieillards, tous montent au front. Pour faire pièce à l'obscurité, ils allument sur les rives des milliers de lacs finlandais, d'immenses brasiers païens. Ils hissent au haut de leurs mâts de guerriers des étendards bleus et blancs. Avant l'affrontement, les 5 millions d'assaillants se rassasient de saucisses graisseuses et de côtes de porc grillées au barbecue. Ils boivent sans lésiner pour se donner du courage et au son de l'accordéon, se ruent à l'assaut de la neurasthénie, défiant sa puissance en un rude combat sans merci, jusqu'au bout de la nuit. Dans le tumulte des corps à corps, les sexes opposés se mêlent, les femmes se font engrosser. De nombreux téméraires se noient dans les lacs et les bras de mer qu'ils tentent de franchir à bord de vedettes de débarquement, par dizaines de milliers. Les gens s'écroulent dans les aulnais et les buissons d'ortie. On ne compte plus les actes de bravoure et les sacrifices héroïques. La joie et le bonheur triomphent. Le vague à l'âme est mis en déroute et la nation, ayant vaincu par là la force du sinistre despote, goûte à la liberté pendant au moins un soir.
Still the warm wind's tired friend. Times ago. question n'est pas « Comment devient-on un moraliste ?» La question est plutôt « Comment peut-il se faire qu'on ne le devienne pas ?» Quand on voit ce que signifie la guerre, et moi je l'ai vu avec les yeux d'un garçon de 15 ans. Je me rappelle, quand je suis allé en France, j'ai vu dans une gare, probablement à Liège, une file d'hommes qui, chose étrange, commençaient aux hanches. Commençaient aux hanches. C'était des soldats qu'on avait amputés jusqu'en haut des cuisses et qu'on avait simplement posés là, sur leur moignon. Ils attendaient ainsi le train pour rentrer dans leur patrie. Ce fut ma première impression de la Première Guerre mondiale. Quand on voit un tel spectacle, alors qu'on sort d'une famille paisible, il est tout simplement impossible de ne pas devenir un moraliste. Le courage. Je ne sais rien du courage. Il est à peine nécessaire à mon action. La consolation ? Je n'en ai pas encore eu besoin. L'espoir. Je ne peux vous répondre qu'une chose. Par principe, connais pas. Mon principe est, s'il existe la moindre chance, aussi infime soit-elle, de pouvoir contribuer à quelque chose en intervenant dans cette situation épouvantable dans laquelle nous nous sommes mis, alors, il faut le faire.
La maladie est un état. La santé n'en est qu'un autre. Plus mort, je veux dire plus large et plus mesquin. Pas de malade qui n'ait grandi. Pas de bien portant qui n'ait un jour trahi. Pour n'avoir jamais voulu être malade, comme tel médecin que j'ai subi. J'ai été malade toute ma vie et je ne demande qu'à continuer. Car les états de privation de la vie m'ont toujours renseigné beaucoup mieux sur la pléthore de ma puissance. Les crédences me disent bourgeois que la bonne santé suffit. Car mon être est beau, mais affreux. Et il n'est beau que parce qu'il est affreux.
Souvenir Baudelaire.
Non, vous rabaissez, vous rabaissez. Plus fort.
Il était un roi de Thulé, à qui son amant fut fidèle.
Non.
Il était un roi de Thulé.
Il était un roi de Thulé.
Il était un roi de Thulé, à qui son amante fidèle. Les gars comme souvenir d'elle.
Plus haut, plus fort.
Les gars comme souvenir d'elle.
Plus fort.
Il est...
Allez, 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 Colette.
Il était un roi de Thulé, à qui son amante fidèle. Les gars comme souvenir d'elle.
Non, d'elle, d'elle.
Les gars comme souvenir d'elle.
D'elle.
Les gars comme souvenir d'elle.
Faites trisser le son. Il faut faire vibrer le son jusqu'à ce que la fibre de vie grince. La boule a crié.
Il était un roi de...
Recommencez.
Bonjour. Nous retrouvons, comme d'habitude, les grands entretiens présentés par Guillaume Van den Abgral. Les plus grands romanciers, les plus grands cinéastes, les plus grands hommes et femmes de théâtre qui répondent aux questions de Van den Abgral.
Bonsoir à tous. Aujourd'hui, dans les grands entretiens du Zapnik, nous avons l'immense privilège de recevoir Henry Miller qui est avec nous.
Oui.
Vous avez accepté de répondre à nos questions.
Oui.
Alors que c'est le seul entretien que vous n'avez jamais donné à la radio francophone.
Oui.
Et cela est dû à notre rencontre il y a quelques années à Big Sur.
Tout de suite, nous sommes devenus amis.
Voilà, ce fut un échange mémorable, tant sur le plan intellectuel qu'affectif.
Oui.
Vous m'avez toutefois demandé de ne vous poser qu'une seule question. Et je vous poserai donc celle que précédemment j'ai posée à Vladimir Ilitch, Henry Miller. Que faire ?
La sagesse, c'est de faire de moins en moins, dans tous les domaines, comprenez-vous, de flotter au lieu de nager. C'est-à-dire que la vie me semble tellement simple. Je me demande pourquoi j'ai fait quelque chose, pourquoi réagir. Je fais comme ça, n'est-ce pas?
La planche.
Oui, oui.
La planche.
Parce que toute cette agitation du monde, n'est-ce pas? C'est le signe of an inner disturbance.
D'un trouble intérieur.
Oui. Je trouve que les choses externes, les problèmes sociaux, n'est-ce pas, viennent de cela. Au lieu du contraire, si l'homme devient simple, sage, etc., il n'y aura pas de problèmes sociaux, n'est-ce pas?
Mm-hmm.
C'est lui qui crée cela, oui.
Oui. Oui.
Aussi, étant américain, je vois la grande caricature de cette activité. Je dis toujours, c'est l'activité des insectes. Et quand on voit les insectes, n'est-ce pas, on se dit toujours, comment, pourquoi, qu'est-ce qu'ils font, n'est-ce pas, et pourquoi.
Quelle agitation.
Et ils sont tellement occupés, hein, préoccupés, et ça semble ridicule à nous. Mais en nous regardant, nous ne disons pas la même pour nous, comprenez-vous? Et mais moi, je vois comme ça, que c'est ridicule.
Merci pour ces paroles d'une grande sagesse, Henry Miller.
Vous connaîtrez bientôt toute la vérité sur la mort de Vincent Van Gogh. Les détails les plus sordides, aux ragots les plus torrides. Toute la vérité sur la mort de Vincent Van Gogh. Vincent Van Gogh, mort par accident. Tué de balles d'enfant dans un champ. Où est-ce la société qui l'a suicidé? N'accusez personne d'autre. D'autres, n'accusez personne. D'autres, n'accusez personne. Vincent Van Gogh porte le prénom de son frère né mort dans le Brabant. Où est-ce la société qu'il a oublié? N'accusez personne d'autre. D'autres, n'accusez personne.
L'artiste dessine des bleus à l'âme. Il tire tous ses traits au couteau. Les perles le sang à l'oreille. La tête est prise dans un bandeau.
N'accusez personne. N'accusez personne. N'accusez personne.
Il est faux de n'appeler suicidés que ceux qui se suppriment réellement. Parmi ceux-là, il s'en trouve beaucoup qui, en quelque sorte, ne deviennent des suicidés que par hasard, et non pas nécessairement le suicide dans le sang. Parmi les hommes sans personnalité, sans empreinte, puissante, sans destinée, il en est qui périssent de leurs propres mains, sans pour cela, de par leur sceau et leur empreinte, appartenir au type des suicidés. Par contre, parmi ceux qui par essence appartiennent aux suicidés, beaucoup, la plupart même, ne se suppriment pas. En réalité, le propre du suicidé n'est pas de se trouver forcément en relation constante avec la mort, mais de sentir en son moi, à tort ou à raison, n'importe, comme un germe particulièrement dangereux, douteux, menaçant et menacé de la nature. C'est de se croire toujours exposé au danger, comme s'il se trouvait sur la pointe extrême d'un rocher, d'où la moindre poussée du dehors et la moindre faiblesse du dedans peuvent suffire à le précipiter dans le vide. On reconnaît ces hommes à une ligne de destin qui prouve que pour eux, le genre de mort le plus vraisemblable est le suicide, du moins dans leur imagination. Ces états d'âme, qui se manifestent presque toujours dans leur première jeunesse et ne les quittent pas de toute leur vie, n'est pas conditionné par une trop faible vitalité. Au contraire, on trouve parmi les suicidés des natures extraordinairement tenaces, avides et même téméraires. Mais de même qu'il est des tempéraments chez qui la moindre indisposition provoque la fièvre, de même, chez ceux que nous appelons suicidés et qui sont toujours infiniment sensibles et impressionnables, le moindre bouleversement provoque l'abandon à l'idée de la mort.
Ce matin, il est arrivé une chose bien étrange. Le monde s'est dédoublé. Je ne percevais plus les choses comme des choses réelles. Le monde s'est dédoublé. J'ai pris peur, j'ai crié que quelqu'un me vienne en aide. Le monde s'est dédoublé. J'ai accueilli un ami qui m'a pris dans ses bras et m'a murmuré tout bas. Regarde derrière les nuages, il y a toujours le ciel bleu azur qui lui vient toujours en ami. Te rappeler tout bas que la joie est toujours à deux pas. Il m'a dit prends patience, mon ami prends patience, vers un nouveau rivage. Ton cœur est emporté, l'ancien territoire t'éclaire de ses phares, t'éclaire de ses phares. Ce matin, il est arrivé une chose bien étrange. Le monde s'est dédoublé. J'ai senti le temps se fondre un instant sur les visages mêmes. Le monde s'est dédoublé. Vos corps que je percevais hier encore dans leur exactitude ont perdu leur densité.
Là, je trouvais aussi une foi absolue dans l'humain. Un idéalisme rayonnant, les douceurs de la générosité, du renoncement et du martyre. Tout ce qu'il y a de splendide et de stimulant pour l'esprit. Là, la vie était propre, noble et animée. Là, la vie se réhabilitait, devenait merveilleuse et glorieuse et j'étais heureux d'être vivant. J'étais en contact avec ces âmes nobles qui plaçaient la chair et l'esprit bien au-dessus des dollars et des cents, et pour qui le gémissement ténu d'un enfant affamé des bas quartiers avait plus d'importance que tout le faste et l'ambition de l'expansion commerciale et de la suprématie mondiale. Tout autour de moi, il n'était question que de la noblesse de la cause et de l'héroïsme de l'effort. Et mes jours et mes nuits étaient lumière du soleil et des étoiles, feu et rosée. Et devant mes yeux, à jamais brûlant et flamboyant, se tenait le Saint Graal, le Graal du Christ, l'humanité heureuse, depuis si longtemps souffrante et maltraitée, qu'il fallait secourir et finalement sauver.
Tout m'avale. Quand j'ai les yeux fermés, c'est par mon ventre que je suis avalé. C'est dans mon ventre que j'étouffe. Quand j'ai les yeux ouverts, c'est parce que je vois que je suis avalé. C'est dans le ventre de ce que je vois que je suffoque. Je suis avalé par le fleuve trop grand, par le ciel trop haut, par les fleurs trop fragiles, par les papillons trop craintifs, par le visage trop beau de ma mère. Le visage de ma mère est beau pour rien. S'il était laid, il serait laid pour rien. Les visages beaux ou laids ne servent à rien. On regarde un visage, un papillon, une fleur et ça nous travaille. Puis ça nous irrite. Si on se laisse faire, ça nous désespère. Il ne devrait pas y avoir de visage, de papillon, de fleurs. Que j'ai les yeux ouverts ou fermés, je suis englobé. Il n'y a plus assez d'air, tout à coup mon cœur se serre et la peur me saisit.
Tu voulais écrire en napolitano.
Je voulais t'écrire en napolitain.
La lingua da terra mia.
La langue de ma terre.
Ta famiglia mia.
De ma famille.
Le compagne mie.
De mes amis.
Ma questa lingua non sa scrivere.
Mais cette langue, je ne sais pas l'écrire.
Allora je pensais t'écrire en italiano.
Alors je pensais t'écrire en italien.
L'italiano è la lingua delle vacanze.
L'italien, c'est la langue des vacances.
Dell'amore.
Dell'amour.
È così bello scrivere in italiano.
Il est si beau d'écrire en italien.
Ma questa lingua, che a volte tu capisci.
Mais cette langue, che parfois tu comprends.
Non la sai leggere.
Tu ne sais pas la lire.
Allora mi sono rassegnato a scriverti in francese.
Alors, je me suis résigné à t'écrire en français.
Vendredi 31 juillet. Radieuse, envoûtante, pleine de mystères, d'histoires à raconter. Mes yeux regardent Naples et mon cœur ne pense qu'à toi. Je t'embrasse, ton Carmine.
Thank you.
Memento mori.
Se voir partir, s'envoler, à l'instant de mourir, vers d'autres souvenirs. Se voir partir, à la dérive, capitaine d'un navire, sans avenir. Va, pauvre air, faire peser ton âme sur la balance du jugement dernier.
Tu penses à l'acte, tu penses à la lâcheté, au moins tu penses. Tu scénarises le pire. Tu avances d'un pas léger. Tu te rétractes. Tu te recroquevilles. Tu doutes d'être soulagé. Tu ne voudrais pas que ce soit en vain. Tu te dis que c'est mieux pour les autres, que ça va les soulager, et tu es prêt à ensevelir un monde dans ton sillage. Fin de la consultation pour aujourd'hui. Merci Paul Arthur pour vos choix.
Docteur.
Textuel et votre voix. Aujourd'hui, on a eu du Régent du Charme, Herman S., Jack London, Arto Pasilina et Antonin Arto. Musicalement, il y a eu aussi Clara Isé. Aidez-moi, Paul.
Joy Division, Iggy Pop et Danger Mouse,
Vénus avec Beautiful Days,
et quelques mots de Gunther Anders,
et quelques mots de vos serviteurs, le docteur Abgral et le professeur Paul Arthur. C'était notre deuxième consultation. Portez-vous bien.